Je n'ai pas été appelé Monsieur Boisvert, mais René, ça me fait chaud au cœur. Comme vous voyez, je vous invite à tourner avec moi dans Galates chapitre 5. Et on va lire les versets 2 à 6. Et on prendra le temps ce soir, Dieu voulant, de s'attarder principalement sur le verset 6. Mais pour avoir tout le contexte, je pense que c'était tout de même approprié de commencer la lecture à partir du verset 2. Donc, Galates chapitre 5 et à partir du verset 2. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. Le titre que j'ai donné à ce message-là, c'est « La vraie démonstration de la foi ». Il est tout d'abord important de commencer avec le contexte de ce texte-là, placer le texte dans son contexte, et qu'est-ce que Paul a voulu entretenir les Galates, et on va mettre l'emphase sur le verset 6 qui nous dit que la foi est agissante par l'amour. Tout d'abord, le contexte, ça nous dit que Paul met en contraste un système religieux qui est basé sur des œuvres mortes en rapport avec la vraie foi, celle qui sauve. Et elle est démontrée dans le texte par la circoncision. Paul va mettre un emphase vraiment fort sur le fait que les Juifs continuaient à vouloir le désir de se faire circoncire. Et que la foi seule, ce n'était pas suffisant. Mais il manquait quelque chose à cette foi-là, ça prenait encore plus que ça. Les Juifs, évidemment, se rappelaient que la circoncision, c'est un symbole de l'Alliance. On voit ça dans Genèse 17, versets 9 à 11. C'était un signe également d'appartenance à la lignée physique et ethnique d'Abraham. Donc, si on était circoncis, on faisait partie de l'Alliance et on faisait partie de la lignée abrahamique. Mais beaucoup de Juifs, et c'est ce qui se passait ici dans le contexte, il y a beaucoup de Juifs qui se disaient, « Si je me fais circoncire, ça va me garantir de recevoir les faveurs de Dieu. Humainement, en me faisant circoncire, je recevrai les faveurs de Dieu. Je mériterai des avantages spirituels qui sont attachés au fait que je me fais circoncire. » Ils vont beaucoup plus loin que ça, puisqu'ils disent que la foi en Christ ne suffit pas pour le salut. Le salut en Christ n'est pas complet. L'œuvre de Jésus-Christ à la croix n'est pas complète, sans la circoncision. Ces Juifs-là enseignent que Moïse a commencé sous l'ancienne alliance, ce que Christ a continué sous la nouvelle en offrant son corps sur la croix, doit être complété ou rendu parfait par les efforts des hommes. Le symbole principal ici, c'est la circoncision. C'est ce que les Juifs pensaient. Et c'est à ces hommes-là et ces gens-là que Paul va écrire. Puis il va leur dire, « Vous pensez que le salut n'est pas complet en Jésus-Christ. Vous pensez que la nouvelle alliance n'est pas complète en l'œuvre de Jésus-Christ. Vous vous faites donc circoncire. Comme si le plan de Dieu était incomplet. Oui, c'est un symbole de l'alliance. Oui, on fait partie de la lignée abrahamique lorsqu'on se faisait circoncire. Mais lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, tout a été aboli, tout a été accompli. La circoncision n'était plus nécessaire. Et c'est ce que Paul veut décrier dans son texte. Paul, en réalité, va condamner les efforts humains pour recevoir la faveur de Dieu. Il donnera ensuite une série de 4 raisons pour démontrer que devant Dieu, les efforts humains n'ont aucune valeur. Et les 4 raisons, on les a vues dans ce texte-là. Tout d'abord, il dira... Verset 2, « Voici moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous sert à rien. » C'est un ou l'autre. C'est soit que tu te fais circoncire ou que tu vas te tourner vers Christ. Il dira également dans le verset 3, « La pratique de la loi au complet doit être faite, pas seulement la circoncision. » C'est ce que les Juifs faisaient. Ils allaient chercher une partie de la loi, ce qu'ils trouvaient facile ou plaisant à faire. Quoique la circoncision, ça ne doit pas être plaisant, mais ils allaient chercher ce qui était nécessaire pour eux autres, puis le reste de la loi, ils laissaient ça de côté. Mais Paul leur dit, non, non, c'est soit que tu fais toute la loi ou tu ne la fais pas du tout. C'est soit que tu l'accomplis à 100% ou que tu te tournes vers Jésus-Christ. Ensuite, il dira au verset 4, « Les œuvres humaines nous séparent de la grâce de Dieu qui veut nous donner le salut. » Combien de gens de nos proches, de notre entourage, ne viennent pas au Seigneur parce qu'ils n'acceptent pas la grâce de Dieu, mais ils veulent plutôt obtenir cette grâce-là par leurs œuvres, par leurs bonnes actions, par leur bonne vie. Ces gens-là ne peuvent pas obtenir en même temps la grâce de Dieu et les œuvres. Et combien de gens autour de nous, de notre entourage, n'acceptent pas Christ comme leur sauveur? Parce qu'il manque des œuvres, selon eux. Et finalement, dans les versets 5 et 6, sur lesquels je vais m'appuyer beaucoup plus ce soir, prendre du temps sur ces versets-là, Dieu voulant, Paul nous dit que le salut, c'est par la foi seule. Mais il va s'extérioriser non pas par la circoncision, non pas par des œuvres mortes, mais par l'amour. Verset 6, « Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. » En réalité, ce que je veux faire ressortir dans ce texte-là ce soir, c'est que ça se peut que dans nos vies, nous pratiquions une religion. Ça se peut que dans nos vies, on ne soit pas véritablement engagé envers Dieu, mais qu'on pratique une religion. Un peu comme ces Juifs-là. S'engager dans le sacrifice de Jésus-Christ n'était pas suffisant. Dans leur tête à eux, il y avait besoin d'œuvres. Il y avait besoin d'accomplir encore ce que la loi leur demandait de faire, et c'était la circoncision. Est-ce que ça se peut que dans nos vies, on ne pratique pas un engagement pour Dieu? Qu'on n'est pas véritablement engagé envers Dieu? Et que plutôt on pratique une religion? Vous savez, je ne crois pas que l'on recherche le salut par nos œuvres. J'espère que c'est ce qui a été prêché ici depuis toutes ces années. Nous, à Trois-Rivières, en tout cas, c'est ce qu'on prêche, le salut sans les œuvres. Mais je crois en revanche que quelquefois, on préfère faire des œuvres plutôt que de changer nos vies. Vous savez, il est beaucoup plus facile d'œuvrer pour Dieu, de faire des œuvres, de faire des choses pour Dieu que de changer notre caractère. Beaucoup plus facile de venir à l'Assemblée, de lire ma Bible, que de changer mon caractère jaloux, mon caractère colérique, mon caractère ambitieux, mon caractère qui veut avoir la gloire. Ça, c'est dur à casser, c'est dur à briser. Mais je vais faire des œuvres, je vais travailler, hein, je vais être dans un ministère, je vais œuvrer dans mon église. Mais je ne change pas véritablement à l'intérieur de moi. Puis la question qu'on doit se poser ce soir, c'est sommes-nous seulement des faiseurs d'œuvres? Sommes-nous en Christ uniquement pour accomplir des choses, sans jamais et véritablement changer à l'intérieur de notre cœur? Tout ce qui se voit, tout ce qui paraît, tout ce que les gens peuvent savoir, mais au fond de mon cœur, je n'ai pas changé. Je suis encore le même. Il n'y a pas eu de transformation. Vous savez, quelquefois, je crois que pour notre conscience, nos œuvres vont servir à compenser le mal, les péchés ou la désobéissance que je peux avoir faite dans ma journée ou dans ma semaine. Je m'examine, je regarde ma vie, je regarde comment elle a été, puis je me dis, là, je n'ai pas été correct. Je suis tombé dans tel péché, j'ai désobéi. Je me suis mis en colère, je me suis fâché, j'ai fait telle chose, j'ai eu de l'amertume contre mon frère, etc., etc., etc. Mais, j'étais allé à l'Assemblée dimanche matin puis dimanche soir. J'ai été dans ma cellule mercredi. J'ai lu cette semaine. J'ai payé ma dîme dimanche. Je ne suis pas si pire. J'évalue ça puis je me dis, j'ai œuvré, j'ai fait des choses pour Dieu. J'espère que ça compense pour le reste. Un peu comme si on évaluait notre vie comme une balance, en espérant avoir suffisamment œuvré pour Dieu pour compenser pour notre désobéissance ou nos péchés. L'autre question qu'on doit se poser, c'est est-ce que je trouve plus facile de faire des œuvres que de véritablement changer dans ma vie? œuvrer pour Dieu, avoir un ministère quelconque, ce n'est pas toujours facile. Mais je pense que quelquefois, on trouve ça beaucoup plus facile que de vouloir transformer mon cœur ou transformer ma vie. Beaucoup plus facile ce soir de venir ici que de tomber à genoux, seul avec mon Dieu, pour lui demander de l'humilité, pour lui demander de changer mon cœur, pour lui demander d'avoir plus d'amour pour mes frères, pour mes sœurs, pour lui demander d'aimer plus Dieu. Ça paraît bien, on vient à l'Assemblée, on a l'air de chrétiens spirituels qui aiment Dieu, mais au fond de notre cœur, il n'y a pas eu de changement. Vous savez, Dieu a en horreur de tels comportements. Dieu a en horreur une telle manière de vivre. Ésaïe 29, verset 13, on lit ceci. « Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Vous savez, les rituels humains, vides de sens, ne sauraient procurer la moindre intimité avec Dieu. Des rituels vides de sens. Ce que nous pratiquions lorsqu'on était des catholiques. Ce que nous pratiquions lorsqu'on ne connaissait pas Dieu. Plus jeune, moi, j'allais à l'église parce que mon père disait que je devais aller à l'église. Je me rappelle, tout petit, à l'école, on avait la confession qu'on devait faire. On était à l'école, il fallait faire ça. Les professeurs nous obligeaient. Ça ne m'intéressait tellement pas que je m'inventais des péchés. Je ne comprenais tellement pas qu'est-ce que j'allais faire là, que je m'inventais des péchés que j'avais faits. Juste pour rentrer là et avoir la bénédiction du supposé prêtre, homme de Dieu. C'était par habitude, c'était un rituel. Mais quand je sortais de là, je n'étais pas plus proche de Dieu parce que je lui avais confessé mes péchés à un homme. Ma vie, elle n'avait pas changé. Elle était restée exactement la même. Mais malheureusement, même une fois chrétien, une fois sauvé, une fois qu'on appartient au véritable Dieu, on continue à avoir cette attitude-là. Une attitude de rituel, une attitude d'habitude et non de changement intérieur. Jésus a condamné cette attitude-là chez les pharisiens. Dans Matthieu 23, versets 1 à 36, il leur reproche beaucoup de choses, mais principalement ces quatre choses-là. Ils font des actions pour être vus des hommes. Est-ce que ça se peut qu'on fasse des œuvres pour Dieu, pour être vus des hommes, pour être aimés des hommes, être acclamés des hommes? Il leur a reproché qu'ils ont laissé ce qui était important. La justice, la miséricorde et la fidélité. Il leur a dit, vous nettoyez le dehors, mais au-dedans, vous êtes plein de rapines et d'intempérance. Il leur a reproché de paraître juste aux yeux des hommes, mais plein d'hypocrisie et d'iniquité à l'intérieur. Je pense qu'on doit examiner nos vies pour savoir est-ce que ma vie chrétienne, c'est une religion que je pratique. Est-ce que ma vie chrétienne, c'est juste une habitude, une façon de vivre avec laquelle j'ai appris à vivre durant toute ma vie? Quelque chose qui fait partie de ce que j'ai à faire chaque semaine, un peu comme aller travailler ou aller faire l'épicerie, mais sans avoir de véritable consécration? Vous savez, si je viens à l'église par habitude, ou si tout ce que je fais pour Dieu, c'est par habitude, je pratique une religion. Si je le fais par obligation, dans le sens de qu'est-ce que les autres vont dire si je ne le fais pas? Qu'est-ce que les autres vont dire si je ne suis pas là? Qu'est-ce que les autres vont dire si... Ça, c'est pratiquer une religion. Si je le fais juste parce que je pense que c'est bien. Ça doit être bien. Je ne comprends pas trop, mais ça doit être bien. Si je le fais pour bien paraître. Est-ce que nous sommes des chrétiens d'église, des croyants fervents pour la parole de Dieu le dimanche matin et le dimanche soir, et le reste de la semaine, parole de Dieu reste fermée. On ne la lit pas. Elle n'a pas d'importance dans notre vie. Toutes les autres choses qui nous entourent, qui vont prendre plus d'importance. Est-ce que je le fais pour bien paraître, hein, des œuvres, des ministères, mes implications, par motif personnel? Si nous n'avons aucune conviction biblique, appuyée sur la parole de Dieu, non pas sur des désirs, sur une volonté, mais sur la parole de Dieu, je pratique une religion. S'il n'y a pas de croissance spirituelle dans ma vie, si après tant d'années de conversion, on nous sommes encore les mêmes, on doit se poser des questions. Je le sais que je ne suis pas le même que le moment que je me suis converti. Je le souhaite. Puis j'espère que dans 5 ans, je ne serai pas le même qu'aujourd'hui. Si j'ai aucun désir face aux choses de Dieu, puis si je fais tout simplement ça par motif de bonne conscience, hein, qu'est-ce que mes parents vont dire si j'arrête d'aller à l'église? Qu'est-ce que mes chums vont dire? Qu'est-ce que si? Qu'est-ce que ça? Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Vous savez, s'il y a quelques raisons qui sont là qui nous rejoignent, mais ça se peut que ma vie chrétienne soit juste une religion et non une véritable consécration. Exactement comme ces Juifs-là. C'était pas assez la croix, ça prenait encore plus, ça prenait des œuvres. C'était la croix, mais avec la circoncision. C'était le sacrifice de Christ, mais avec la circoncision. C'était le sang de Jésus, mais avec la circoncision. Ce n'est pas suffisant, l'œuvre que Christ a accomplie. Comment je vais alors démontrer ma vraie foi? Comment je vais démontrer aux gens qui m'entourent si j'ai véritablement la foi? Oh, j'en entends sûrement se dire, il dit de ne pas faire d'œuvre, mais pourtant, Paul, dans Romains 4, on n'est pas sauvé par les œuvres, mais pour des œuvres. Jacques, chapitre 2, une grande section au complet où Jacques va démontrer que lorsqu'on est sauvé, c'est pour des œuvres. C'est vrai. Puis je ne rentre pas en conflit ce soir avec ça. Mais est-ce que nos œuvres, c'est la seule chose qui compte dans notre vie? Puis Paul nous donne une réponse. La véritable œuvre qu'on doit avoir dans notre vie, qui va nous amener à tout faire le reste, il dit à la fin du verset 6, « La foi, elle est agissante par l'amour. » En réalité, c'est comme si Paul il disait, « La seule œuvre qui est nécessaire dans la vie du croyant, c'est l'amour qui doit l'habiter à l'intérieur de lui. » L'amour pour Dieu, puis l'amour pour mes frères puis pour mes sœurs. Puis inquiétez-vous pas, si j'aime Dieu, je vais lui être fidèle, je vais lui être obéissant. Je vais lire la parole, je vais avoir du désir pour sa parole. Puis si j'aime mes frères et mes sœurs, je vais être compatissant envers eux, je vais être juste, je vais leur faire du bien, je vais m'humilier devant eux. On n'a pas besoin de courir après ces œuvres-là, mais de seulement courir après l'amour. Puis si l'amour nous habite, si ce torrent d'amour-là que Dieu a eu pour nous, si on le déverse autour de nous, on va démontrer notre foi envers Jésus-Christ. On va la démontrer à toutes les gens qui nous entourent. Cette vraie foi, elle est donc agissante par l'amour. La foi, c'est la foi qui s'abandonne à Dieu pour croire au sacrifice de Christ. Et cet abandon-là, c'est l'abandon de mes efforts. Il n'y a personne ce soir, j'espère, qui est venu au Seigneur en pensant qu'il l'a mérité à cause de ce qu'il a accompli. Et s'il y a quelqu'un ce soir qui n'appartient pas au Seigneur, oubliez tout de suite cette idée-là. Ce n'est pas par nos œuvres, par notre manière de vivre, parce qu'on est des bonnes personnes, parce que tout le monde sera au ciel. C'est par la foi en Jésus-Christ. J'abandonne mes efforts. Qu'est-ce que ça veut dire ne plus avoir d'efforts? Ça veut dire que tous mes efforts personnels pour obtenir les faveurs de Dieu ne comptent pas. Et je n'obtiendrai pas ces faveurs-là ou les bénédictions venant de Dieu en fonction de ma vie. Rien de ce que je peux faire peut attirer la faveur de Dieu. Voici ce qu'on lit dans Luc 17, verset 10. « Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. » même dans l'œuvre pour le Seigneur, même dans mon ministère, dans votre ministère, on n'a pas à attendre les faveurs de Dieu à cause de ça. Parce qu'on est des serviteurs inutiles qui avons juste fait ce que Dieu nous demandait. Cette foi ne se démontre pas par des œuvres, par des rituels, mais par la foi agissante de l'amour. Ça signifie que la vraie foi doit produire de l'amour dans notre vie. Un amour pour Dieu et un amour pour les autres. Je trouvais intéressant de constater que l'amour, c'est la première partie du fruit de l'Esprit. Paul, lorsqu'il prêche dans cette même lettre-là, il parle du fruit de l'Esprit qu'on doit avoir en nous. Et la première partie de ce fruit-là, c'est l'amour. Galates 5, versets 22 et 23, on lit ceci. « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. » C'est pourquoi la foi véritable produit toujours, toujours et toujours de l'amour. Et la foi véritable ne produit pas des œuvres, mais elle produit l'amour. Cet amour-là qui se trouve dans notre cœur, cet amour-là que Dieu a placé en nous, il doit donc déborder et se répandre autour de nous. Romains 5, 5 nous dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Eh bien, frères et sœurs, cet amour-là doit être visible par les gens qui nous entourent, par les gens qui sont à l'extérieur de nous. Cet amour-là que Dieu a placé en nous, ça doit être visible par notre femme, par nos enfants, par notre patron, nos collègues de travail, par notre famille, par nos amis. On va leur démontrer, si on est rempli de cet amour-là, on va leur démontrer qu'on appartient à Jésus-Christ et qu'on a placé notre foi en Jésus. La foi, c'est la racine qui nous garde attachés au cep. Et l'amour, c'est le fruit de ce cep-là. Cette foi agissante doit donc produire ceci en nous. Un amour pour Dieu. Une bienveillance pour les hommes. C'est cet amour-là qui doit nous atteindre le cœur et contrôler nos affections. Cet amour-là doit produire un attachement vrai et sincère pour les autres. Ça doit produire une volonté de faire le bien. Et ça doit nous éloigner de l'idolâtrie. Rappelez-vous que l'amour est ce qu'il y a de plus important pour le Seigneur Jésus et pour Dieu lui-même. On lit ceci dans Matthieu 22, versets 36 à 39. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? » Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Il y a quelqu'un qui va voir le Seigneur Jésus et qui lui dit, « C'est quoi les plus grands commandements? » Jésus répond, « C'est pas compliqué. Aime Dieu. Puis aime ton prochain. » Il n'y en a pas d'autre. Aime Dieu de tout ton cœur, puis aime ton prochain de tout ton cœur. Ce sont les deux seuls commandements, les deux plus importants commandements que Jésus a laissés à son peuple et qu'il nous a laissés. Si j'aime Dieu, je vais avoir toutes sortes de bonnes œuvres qui vont se faire dans ma vie. Mais pas basé sur ma justification ou pour obtenir des faveurs et des mérites de Dieu, appuyé sur l'amour que j'ai pour lui. Et si j'aime mes frères et mes sœurs, je vais chercher uniquement à leur faire du bien. Non pas pour recevoir encore là quelque chose d'eux, mais tout simplement parce que j'ai l'amour de Dieu qui m'habite à l'intérieur de moi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain Ça, c'est la foi agissante par l'amour dont Paul nous parle au verset 6. L'amour pour Dieu, qu'est-ce que c'est? Eh bien, l'amour pour Dieu, c'est la priorité des priorités. C'est un engagement inconditionnel et sans réserve envers Dieu. Un amour inconditionnel et sans réserve. Quand on s'est marié, moi puis mon épouse, assez logique, hein? On s'est promis qu'on s'aimerait pour le meilleur et pour le pire, dans les bons puis les bons, les meilleurs moments, dans la richesse puis la pauvreté. Écoutez, ça fait 16 ans, là, j'ai oublié un petit peu ces affaires-là. Mais c'est ça, un engagement sans réserve puis sans condition. Peu importe ce qui va arriver, chérie. Peu importe si tu es malade. Peu importe si on est pauvre. Peu importe si ça va bien ou si ça va mal. Je promets de t'aimer. Aujourd'hui, ceux qui s'engagent, ils ne comprennent pas ça. Il y a un bout qui oublie. Mais s'engager avec un amour envers Dieu, c'est exactement celui-là. Seigneur, je t'aime parce que tu as mis cet amour-là dans mon cœur, puis je m'engage envers toi. Je m'engage à t'aimer coûte que coûte. Je m'engage à tout faire pour t'être fidèle, obéissant. Aucune retenue de ma part. Je te donne ma vie, je te donne tout. Prends-la, fais-en ce que tu veux. C'est ça, aimer Dieu inconditionnellement. Il s'agit de l'aimer de tout notre être, de toute notre faculté. C'est être prêt à renoncer à tout ce qui nous est cher. Renoncer à tout ce qui nous est cher. C'est peut-être refuser un travail. Parce que ça va m'empêcher de venir à l'Assemblée. C'est peut-être refuser des activités ou des loisirs, parce que ça m'empêche de servir Dieu. C'est peut-être refuser à de l'argent pour la donner le dimanche matin dans la dîme. Aimer Dieu, c'est être prêt à tout sacrifier et à tout donner pour lui. Même les choses qui nous sont le plus chères. Aimer Dieu, c'est être prêt à renoncer au confort de ma vie, à me consacrer à son service, aux œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous, Éphésiens 2, verset 10. Éphésiens 2, hein, c'est donc bien beau. Mais on arrête tout le temps Éphésiens 2, 8. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est pas par les œuvres. Mais on continue-tu jusqu'à 10? Oh oui, c'est par grâce, puis c'est pas par les œuvres, mais c'est pour des œuvres. Est-ce que je suis prêt à dire au Seigneur, « Prends ma vie, fais-en ce que tu veux. Je te l'offre, je te donne. Utilise-moi selon ton bon vouloir, selon ta bonne volonté, selon ce que tu désires. » Je prêchais ce matin à Trois-Rivières dans Jonas. La désobéissance de Jonas. Jonas a désobéi, il s'est poussé à Tarsis au lieu d'aller à Ninive. Mais ce n'était pas la première fois que l'Éternel lui parlait. Il lui avait dit d'aller voir Jéroboam, puis d'aller lui dire, « Va conquérir d'autres territoires. On n'est pas en guerre, on est en paix. Va voir Jéroboam, puis on va conquérir des territoires. » Là, il est allé, Jonas. Il était donc content d'aller voir Jéroboam pour dire, « Hey, Dieu m'envoie pour qu'on conquière plus de territoires, qu'on ramène ça au temps de David et de Salomon. » Mais quand c'était le temps de prêcher la repentance aux Ninivites, il n'est pas allé. Les Ninivites étaient cruels, étaient méchants. Puis je donnais l'exemple. Dieu m'a appelé à la prédication, à Trois-Rivières, mais aussi à l'extérieur. La moitié de mes prédications sont à l'extérieur de mon église. J'ai le dépeint qui vient de revenir du Congo. Ça, c'est l'extérieur aussi, le Congo. Là, je me disais, on est prêché au Cap, je vais à Grimby, à Grand-Mère, c'est le fun, je vois mes amis, je rencontre des gens. Mais si Dieu me demande d'aller prêcher au Congo, c'est-tu encore à l'extérieur, ça? Mais c'est peut-être l'extérieur trop loin. Tu sais, moi, aller prêcher où les araignées sont grosses comme ça, là. Est-ce que je suis prêt à servir Dieu? Oh oui, je suis prêt à servir Dieu, mais dans ma région. Merci Seigneur pour le ministère que tu m'as confié, mais dans ma région, je mets des limites au ministère de Dieu. Honnêtement, dans mon cœur, je suis très heureux que ça soit à Gilles que Dieu demande d'aller prêcher au Congo. Mais être prêt à le servir, c'est en toute chose. Pas juste qu'est-ce que j'aime, pas juste qu'est-ce qui me plaît, mais je vais le faire si je l'aime. Je vais le faire si j'ai de l'amour pour Dieu. C'est d'être prêt à soumettre mon intelligence, ma volonté, mes désirs, mes choix à ce que Dieu a décidé dans ma vie. Et soumettre mon intelligence, ma volonté, mes désirs puis mes choix pour que Dieu décide à ma place dans ma vie. Moi, j'ai de la misère que quelqu'un d'autre décide à ma place. Parce que moi, je sais ce qui est bon pour moi puis je prends toujours les bonnes décisions. Fait que laisser Dieu agir, laisser Dieu diriger ma vie, c'est très difficile. Mais si je l'aime, c'est ce que je vais faire. Je vais le laisser prendre la place. Je vais y donner la conduite de ma vie. Si j'aime Dieu, c'est renoncer au mal, renoncer au péché dans ma vie. Vous savez, le péché qui est si attrayant, qui satisfait notre chair, qui est si tentant, qui, sur le moment, va nous réjouir, va nous faire du bien, et qu'il y a tellement de répercussions et de conséquences après. Mais est-ce que je suis prêt à renoncer au mal, à renoncer au péché par amour pour Dieu? C'est amener à avoir une vie d'obéissance, de brisement intérieur, de service, d'abandon, de sacrifice et d'oubli de moi-même. C'est ça, aimer Dieu. Je prends ma vie, je la tasse pour que ce soit Dieu qui dirige. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Un très beau chant, un très beau texte. Est-ce qu'on l'applique dans nos vies? Aimer Dieu, c'est pas facile. Aimer Dieu, ça demande beaucoup d'efforts et de sacrifices. On a donc besoin de lui demander de nous remplir de cet amour-là, de remplir notre cœur d'un amour pour lui, pour qu'on puisse avoir une vie d'obéissance et de brisement intérieur. C'est donner à Dieu la première place dans ma vie. On va aller plus vite parce que l'heure avance très rapidement. Maintenant, la deuxième partie de cet amour-là, c'était d'aimer les autres. La première partie, j'aime Dieu. La deuxième partie, c'est j'aime les autres. Et on va regarder quatre principes bibliques concernant l'amour du prochain. Et le premier, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu 22, verset 29. Personne ne se veut du mal. Personne ne se souhaite du mal à sa propre personne. Donc, si j'aime mon prochain comme moi-même, ça veut dire que pour mon prochain, je ferai uniquement ce qui est dans ses meilleurs intérêts. Je ferai uniquement ce qui est le mieux pour lui. Parce que je ne me souhaite pas du mal, donc je ne dois pas souhaiter de mal. Je ne dois rien faire de mal pour mes prochains, pour mes proches, les gens qui m'entourent. La haine, le mépris, la médisance et la colère doivent être remplacés par l'amour pour notre prochain. Oui, mais j'aime pas qu'est-ce qu'il fait. Oui, mais as-tu vu qu'est-ce qu'il a fait? Oui, mais ça me fâche qu'est-ce qu'il fait. Si j'aime véritablement mon prochain comme je m'aime moi, le mépris, la médisance et la colère vont être remplacés par l'amour. Deuxième principe, Christ nous dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Des fois, on se dit peut-être « Jusqu'où je dois aimer mon prochain? » C'est quoi la limite? Seigneur Jésus vient de nous la donner. Le barème pour aimer notre prochain, ou la limite pour aimer notre prochain, c'est comment Dieu nous a aimés. Ça se résume à, il n'y en a pas de limite. le Seigneur Jésus a accepté de quitter le ciel, les parvis célestes, descendre ici-bas sur cette terre, prendre un corps d'homme, vivre parmi les pécheurs, passer par l'apprentissage de marcher, manger, parler, la propreté, parce qu'il est né comme un petit enfant. Il a accepté de se charger de notre condamnation, de prendre nos péchés, de devenir péché pour nous. Il a accepté la colère de Dieu à notre place. Et tout ça par amour pour nous. Si on pense qu'il y a une limite à comment je dois aimer mon frère et ma sœur ou comment je dois aimer mon prochain, il n'y en a aucune. Quand je pense à ce que Dieu a fait pour moi. Je dois être prêt donc à me sacrifier pour mes frères et pour mes sœurs. Je dois oublier moi-même. Je dois m'oublier. Je dois voir aux intérêts des autres. Et tout ça s'est rendu possible par la transformation du Saint-Esprit dans ma vie. Troisième principe biblique concernant l'amour du prochain. Matthieu 7, verset 12, on lit ceci, « Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux. » C'est drôle parce qu'on a appris l'inverse. Hein? Moi, c'est ça que ma mère me disait. « Ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. » Je ne sais pas vous autres, mais moi, c'est ça que ma mère me disait. Hein? Tu ne veux pas que l'autre fasse ça? Ben fais-y pas toi non plus. Dieu va beaucoup plus loin que ça. Fais aux autres ce que tu veux qu'ils te fassent. Tu veux qu'ils t'aiment? Aime-les. Tu veux qu'ils soient bons avec toi? Sois bon envers eux. L'amour véritable nous pousse à agir envers les gens et à aller au-devant d'eux sans rien attendre en retour. Le barème que Jésus a instauré d'aimer nos prochains comme lui nous a aimés, oui, la manière qu'il nous a aimés, mais sans rien attendre en retour. Et ce que je veux que les autres fassent pour moi, je dois leur faire. Rien attendre en retour d'eux. Quatrième principe biblique, regardez les autres comme étant au-dessus de nous. Philippiens 2, verset 3. La caractéristique la plus importante pour aimer, c'est l'humilité. S'il n'y a pas d'humilité dans nos vies, il n'y aura pas d'amour. Si je ne me sens pas petit face à mes frères, face à mes sœurs, je ne serai pas capable de les aimer. Si je ne suis pas capable de m'abaisser devant eux, de me placer en dessous d'eux, je ne serai pas capable de les aimer. Puis le texte, lorsqu'on le regarde littéralement, c'est pas juste de se placer de façon physique sous eux, mais c'est de véritablement les considérer comme des gens au-dessus de nous. Ça nous amène à considérer les autres, à comprendre, à avoir de la compassion, puis à agir avec bonté et bienveillance envers eux. Quatre principes bibliques qui nous enseignent comment aimer nos frères et comment aimer nos sœurs. On lit ceci dans 1 Jean, chapitre 3, verset 16. « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. » Rapidement, 5 dernières minutes, la conclusion. On est forcé d'admettre que dans nos vies, on ne reflète pas toujours l'amour. Ni pour Dieu, ni pour nos frères et pour nos sœurs. Mais on pense que parce que je viens à l'église, parce que je lis ma Bible, parce que je travaille à l'œuvre, j'ai un ministère, je fais quelque chose dans l'assemblée, parce que j'éduque mes enfants hein, en Dieu, je les amène à l'école du dimanche, ils participent à un groupe de jeunes, parce que je paye ma dîme, on pense qu'on est acceptable aux yeux de Dieu. Mais ce que Dieu demande de nous, ce ne sont pas des œuvres. C'est de l'amour. C'est ce que Dieu nous demande. Puis inquiétez-vous pas. Si j'aime Dieu et que j'aime mes frères et mes sœurs, tout le reste va suivre. Je n'ai pas à me poser de questions. Tout le reste va suivre dans notre vie. On pense souvent que les œuvres nous rendent acceptables devant Dieu. Mais des œuvres sans amour, ça vaut zéro. Un ministère sans amour, ça vaut zéro. Éduquer mes enfants en Christ, mais sans amour, ça vaut zéro. Payer ma dîme le dimanche matin, mais sans amour, ça vaut zéro. Parce que Dieu recherche un amour pour lui et un amour pour les autres. En Jean 3, verset 18, on lit ceci. « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. » Beaucoup plus facile de dire à mon épouse que je l'aime que de lui montrer et de lui prouver que je l'aime. Ça fait 16 ans, tous les matins, je pars travailler, un petit bec, chérie, je t'aime, puis je m'en vais. Mais en partant, je laisse la porte ouverte, la télé ouverte, le chien sorti, les poubelles qui ne sont pas sorties, la vaisselle qui traîne, mon déjeuner. Mais quand je suis parti, je suis allé la voir, puis j'ai dit, « Ok, je t'aime donc, chérie. » Probablement qu'elle va apprécier beaucoup plus que je ne dise pas que je l'aime, mais que j'aie fait ces choses-là. C'est facile de dire à quelqu'un qu'on l'aime, beaucoup plus difficile d'y prouver. C'est ce que Jean nous dit dans sa lettre. Ne me dites pas, ne dites pas que vous aimez, mais prouvez-le. Rapidement, je n'aime pas Dieu quand je fais passer mes désirs, mes intérêts, ma volonté, mon travail, mes loisirs, mes besoins avant lui. S'il y a quelque chose dans ma vie qui est plus prioritaire, qui est plus important que Dieu, je ne l'aime pas. Je n'aime pas Dieu si je ne suis pas prêt à briser intérieurement. Juste ce qui paraît, juste l'extérieur. Je suis propre en dedans, je suis propre dehors, mais en dedans, je ne suis pas beau à voir. Si je ne suis pas prêt à briser, puis je ne suis pas prêt à casser devant Dieu, c'est parce que je ne l'aime pas. Si je ne cherche pas la stature parfaite de Christ, si je ne cherche pas à éloigner le mal de ma vie, si je ne cherche pas à enlever ce qui n'est pas bien dans ma vie, j'aime pas Dieu. J'aime pas Dieu si je me préoccupe uniquement de satisfaire mes convoitises et que je pêche. Ah, c'est pas grave, je suis pardonné. C'est pas grave, j'ai un avocat auprès du Père. C'est pas grave, je vais aller au ciel pareil. Si je me préoccupe juste de me satisfaire moi-même, j'aime pas Dieu. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. 1 Jean 5, verset 13. Je n'aime pas mon frère quand je lui mens, que j'agis pas avec vérité envers lui. J'aime pas mes frères et mes sœurs quand je me préoccupe pas de leurs besoins, quand je parle dans leur dos, quand je critique leur choix, quand je les juge, quand je ne suis pas prêt à me sacrifier pour eux, quand j'agis en égoïste, quand je les ridiculise, que je leur manque de respect ou que je les méprise, que je ne les reprends pas dans l'amour ou que je suis jaloux d'eux. J'aime pas mon frère puis ma sœur. Galates 6, verset 10 nous dit ceci. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Pendant qu'on a le temps, pendant que c'est encore là, pratiquons le bien envers tous. Aimons Dieu et aimons nos frères et nos sœurs. Et je termine avec l'exemple de Salomon. J'ai lu ça cette semaine. Salomon vient de terminer la construction du temple. Vient de terminer la construction de sa maison, et voici ce qu'il demande à Dieu. Il dit à Dieu, « Incline mon cœur vers toi, afin que nous marchions dans toutes tes voies, que nous observions tes commandements, ces lois et ces ordonnances qu'il a prescrites à nos pères. » Salomon ne demande pas à Dieu, « Aide-moi à t'obéir, aide-moi à être fidèle, aide-moi si... » Non, une chose qu'il demande, « Incline mon cœur vers toi. » Inclinons, demandons à Dieu d'incliner notre cœur vers lui pour qu'il déverse son amour. et que cet amour-là soit répandu envers lui et envers nos frères et nos sœurs. Et remarquez qu'est-ce que Dieu va lui reprocher lorsque Salomon, dans sa grande sagesse, s'est trouvé 1000 femmes. Dieu lui a dit ceci. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel. Pas parce qu'il avait choisi 1000 femmes. Il aurait choisi juste 2, puis c'était une de trop. Parce que son cœur s'est détourné de l'Éternel. Frères et sœurs, ne demandons pas à Dieu, aide-moi dans mon ministère, aide-moi à mieux te servir, aide-moi d'être obéissant, aide-moi d'être fidèle. Demandons à Dieu, aide-moi à t'aimer. Demandons pas à Dieu, aide-moi à voir aux besoins de mes frères, aide-moi à ne pas être égoïste, aide-moi à me préoccuper. Non, demandons à Dieu, remplis mon cœur d'un amour pour mes frères et pour mes sœurs. Si j'aime Dieu, si j'aime mes frères et pour mes sœurs, le reste va suivre. On va terminer par la prière. Père céleste, Seigneur Dieu, on veut tout d'abord être extrêmement reconnaissant pour la personne de ton Fils, parce qu'il a accepté de se sacrifier, de s'humilier, de s'abaisser, de venir ici-bas sur cette terre, de prendre notre colère qui nous revenait, la condamnation qui nous était due. Merci de nous avoir sauvés, d'avoir fait de nous tes enfants. Merci pour ta parole. Merci parce qu'on peut se réunir en paix, en sécurité, et étudier ton livre, étudier ses textes. Merci pour l'Épître aux Galates. Merci pour les paroles de Paul, qui nous enseignent que ce ne sont pas les œuvres que tu regardes, mais notre cœur. Que nous n'avons pas à rechercher ta faveur à travers de ce que nous faisons dans nos vies, mais qu'on devrait plutôt demander de remplir nos cœurs d'amour. Seigneur, ce soir, on veut tous et chacun incliner nos cœurs vers toi. Remplis-les d'un amour pour toi. Et remplis-les d'un amour pour nos frères et pour nos sœurs. Seigneur, je veux te placer l'Église du Cap ici entre tes mains. Tu connais leur situation, les moments difficiles auxquels ils sont confrontés. Je te demande de les aider et de les fortifier. Et remplis notre cœur à tous et chacun d'un amour pour toi et d'un amour pour nos frères et sœurs. Dans ton bon nom qu'on t'en prie. Amen.